C'est un romancier, c'est un journaliste, c'est lui notamment qui aura créé le Figaro de 1836. J'en parle parce qu'il a une originalité, ce Figaro. Bon, d'abord, c'est qu'il est dans l'opposition, c'est pas évident, mais surtout, c'est qu'il a créé absolument le premier, le roman feuilleton détachable. Dans le Figaro 1836, il y avait un feuilleton qui était détachable, qui était paginé à part et qui donnait des romans, notamment Fortunio de Gautier. Il avait promis le Canard de Vaucanson de Nerval, mais il n'est jamais paru. Il y avait deux romans de Balzac qui devaient paraître, mais ils ne sont jamais parus non plus. Mais enfin, c'était quand même une bonne idée, mais un petit peu avorté. Il y a eu, je crois, 7 ou 8 romans qui sont parus, mais ça n'a pas fait trop de bruit. Mais ça indique déjà un peu l'originalité d'Alphonse Karr. Donc, comme journaliste, d'un côté le Figaro, de l'autre côté Les Guêpes, dont on va parler un peu ce soir. Et le troisième aspect du personnage, c'est que c'est un jardinier. C'est-à-dire que c'est lui qui a implanté le commerce des fleurs coupées à Nice. Donc, ce qui est quand même quelque chose de relativement important. Donc, il cultivait des fleurs et il les vendait. Il les vendait à Paris, il les vendait dans toute l'Europe. Il avait comme client Louis de Bavière, Louis Ier de Bavière, la Grande Duchesse de Russie, George Sand, évidemment. Enfin, ça marchait bien. Donc, je vais essayer assez rapidement de vous raconter sa vie déjà. Donc, il est né à Paris en 1808. Son père était pianiste chez Erhardt. Il mettait en valeur un peu les pianos. Il a fait beaucoup de romances aussi. Bon, ensuite, il a fait ses études, assez mauvaises d'ailleurs. Il a laissé tomber l'année du bac, qu'il n'a pas passé. Après, il a été pion, il a donné un peu des cours de latin, de grec. Enfin bref, ça a démarré assez mal. Alors à ce moment-là, comme il n'avait pas les moyens de se loger à Paris, il est parti à Montmartre, sur la Butte. Alors là, il a loué une espèce de petit cabanon qui était le bureau des cannes d'un ancien bal champêtre. Il s'est fait un peu remarquer là par son retrait. Il en a beaucoup parlé ensuite, et Dumas allait le voir là-haut sur la butte. Donc il vivait un peu comme un sauvage, mais avec une belle vue sur Paris quand même. C'est un aspect important du personnage, ce côté bucolique et marginal. Et l'emplacement dans son cabanon, c'est l'emplacement actuel du bateau lavoir. C'était à l'époque l'employé sans pareil, après c'est devenu le bateau lavoir. Et puis donc quand il était là, il envoyait des articles pour les différents journaux, et puis tous ces articles allaient directement à la Bannette. C'est l'habitude, hein. Et puis un jour, il s'est trouvé qu'au Figaro, qui à l'époque appartenait à Victor Bouin, un homme d'affaires de l'époque, qui a fait pas mal de faillites frauduleuses et qui a monté pas mal de journaux à l'époque. Et il y avait une espèce d'insurrection parmi les rédacteurs qui voulaient de l'augmentation. Alors pour pas donner de l'augmentation, il a cherché dans ses poubelles, il a trouvé l'article d'Alphonse Karr, il l'a fait paraître. Et c'est comme ça qu'Alphonse Karr est devenu journaliste. Je passe sur son époque saint-simonienne, là où il a connu Prosper Enfantin et après il s'est fâché très vite avec. 1832, c'est Sous les Tilleuls. C'est vraiment le grand succès de l'édition de cette année-là. Bien plus important qu'Indiana, malgré le scandale. Bien plus important que Stello. Enfin, c'est vraiment le best-seller de l'année. Il sort 35 éditions du vivant même de l'auteur. La première édition, elle s'est vendue en 15 jours. La deuxième, en 15 jours encore. Ça a très très bien marché. Ensuite, il y a eu tout un tas d'éditions dans toute l'Europe. Au moment où en Europe, on commençait à plus parler de lui, c'est-à-dire vers 1880-90, le relais s'est fait par l'édition égyptienne. Les Égyptiens se sont intéressés à la littérature romantique française, et donc un auteur très connu égyptien de l'époque l'a traduit, et ça a eu beaucoup de succès. Et ça a toujours beaucoup de succès. Je vous ai apporté ce qu'on trouve encore au Caire actuellement, dans le livre de poche édité à Beyrouth. C'est Sous les Tilleuls. Et alors ensuite, il y a eu un film qui a été fait dans les années 38, qu'on pouvait encore voir sur les Champs-Élysées, donc en arabe, sous-titré en français, vers 1949. Vous voyez que c'est un beau succès quand même. Donc juste après Sous les Tilleuls, il a une liaison assez retentissante avec Juliette Drouet. Bon, ensuite, il se marie. Très vite après, il divorce, d'ailleurs. Là, il y a une période où il a des problèmes financiers. Alors, il est emprisonné à Sainte-Pélagie pour dette. Ensuite, il s'enfuit à Étretat. Donc, c'est là qu'il découvre Étretat. Il est en 1833. Ensuite, il s'installe rue Vivienne. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Gérard de Nerval. Il est dans toute la bohème de l'impasse du Doyenné. 36, c'est le Figaro, donc je vous parlais tout à l'heure, là, avec Victor Bouin. chaque année, il y a un roman qui sort et chaque année, ça marche assez bien quand même. Donc, au Figaro, il fait quand même entraîner Erval, Gautier, des gens quand même de cette taille-là. Donc, c'est pas tout à fait un journal marginal. Si ce n'est que financièrement, ça va toujours pas. Hein. Il y a une nouvelle saisie, les huissiers débarquent chez lui, c'est à cause de sa femme. Il se fait embarquer tous ses meubles, il vit sur des coussins. Tout ça, ça contribue beaucoup au personnage dans Paris, parce que ça paraît dans les journaux, on parle de l'excentricité d'Alphonse Karr, on prétend qu'il dort dans son cercueil, qu'il a des tentures noires, ses fenêtres, enfin, il y a toute une légende d'Alphonse Karr qui se crée à l'époque. Il fume un peu d'opium avec Gautier, j'en parle parce que Gautier en parle, hein. Il fait partie du club des Hachichines. Donc. Il recrée un nouveau Figaro, qui à nouveau marche pas très bien. Là, on le voit dans des dîners en ville avec Marie Dagou, Hugo, Lamartine, Balzac, Liszt. Tout ça, ce sont quand même ses amis. Et puis en 41, il en a assez, il part à Sainte-Adresse. Entre-temps, les guêpes sont parues. La première guêpe, c'est novembre 39. Il se fâche avec son ami Balzac, à cause des guêpes, on le verra tout à l'heure. En 48, donc, comme il était déjà assez ami avec Lamartine et que ça rentre tout à fait dans ses idées, donc d'une espèce de républicanisme modéré, il fait campagne avec Lamartine, qu'il pousse à se présenter à la députation en Seine inférieure à l'époque. Bon, évidemment, à Sainte-Adresse et dans les environs, il y a beaucoup de voix, mais ailleurs, ça marche pas du tout. La plus grosse ville, c'est quand même Rouen, donc il est renvoyé à son jardin. Cela dit, il fait quand même une forte campagne contre Bonaparte. À la différence de Hugo, qui lui crée un journal pour pousser Bonaparte à la présidence de la République. Et là, dans son journal, on retrouve toujours les mêmes, Gozlan, Gautier, Méry, Murger, Rousset, Paul de Kock, enfin donc Nadar, tous ces gens-là, et Nerval. Nerval, c'est qui est son adjoint pour ce journal. Et donc toujours un roman tous les ans, en même temps. Alors, les romans sont de plus en plus mauvais. Quand arrive le coup d'État, il veut se sentir menacé, en fait il l'était très peu, mais il veut pas être de ceux dont on s'est pas préoccupé. Donc il part à Bruxelles, où il retrouve donc ses amis, Charras, Arago, Hetzel, Dumas. Bon, Dumas, il n'était pas là-bas par conviction politique, c'est parce qu'il était en faillite, donc c'était pour échapper aux huissiers, lui aussi. Il avait rendez-vous avec Hugo, mais il s'en ratait. Hugo est parti à Jersey juste avant qu'Alphonse Karr arrive. Et puis bon, la Belgique, ça lui plaît pas plus que ça, donc il part vers le soleil. Il avait son ami Lothour Mézeray, qui avait commencé avec lui en journalisme, qui était devenu préfet d'Alger. Mais il s'est dit qu'Alger, c'était encore trop la France, puisque à l'époque, c'était la France. Donc il a préféré aller à l'étranger, donc il est allé à Nice, qui était à l'époque l'Italie. C'est là donc qu'il a installé son commerce de fleurs. Et il continue à faire des guêpes. Il continue à faire des romans. Dans l'année 53, il arrive à publier quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 romans. 7 romans rien que cette année-là. C'est assez dramatique. Ces fleurs, qu'il les vend 20 francs le bouquet. Là, il met bouquet de 35 cm de diamètre, on expédie franco de port et d'emballage en toute la France, en Angleterre, en Allemagne. Mais il arrive à faire quand même plus de 30 000 francs de chiffre d'affaires annuel. Là, je vois Dumas qui vient lui faire une visite en 1860. Dumas qui partait rejoindre Garibaldi, avec toute une armée de courtisans pour l'expédition des Mille. Alors Dumas arrive avec son yacht, descend chez Alphonse Karr, qui aussitôt dresse un couvert, invite 60 personnes, dont Banville d'ailleurs, qui était sur place, et puis ils se font une petite fête sympathique là, au bord de la mer, dans son jardin. Un autre détail qui aura son importance quand on lira les guêpes, je vois en 1861, donc il a quand même 53 ans, il est condamné en correctionnel pour une histoire de duel, pour un litige de presse entre la Gazette de Nice et le Messager de Nice. Bon, là, on arrive dans la période des deuils, la mort de la mère de sa fille, parce qu'entre-temps, bon, il a eu une fille avec une personne donc avec laquelle il a vécu, depuis Sainte-Adresse jusqu'à cette période-là. Et puis en 67, Nice lui paraît trop peuplée, plus assez campagnard, on va y mettre le chemin de fer, enfin ça lui convient plus, il y a trop de monde, c'est trop mondain. Alors il s'en va, il va dans un tout petit village de pêcheurs où il achète une ancienne briqueterie. Ce village c'est Saint-Raphaël. Là, il essaie de recréer des guêpes, encore des romans, bon il fait quelques voyages, les petits-enfants arrivent, alors là il commence, c'est l'art d'être grand-père, mais pas à la manière de Hugo, sans ostentation, à la manière beaucoup plus simple. 1871, il relance les guêpes, encore une quatrième fois. Les guêpes qui survivront donc jusqu'au 1er octobre 1876, ajoutent 260 livraisons hebdomadaires de 71 à 76, c'est énorme. Et c'est à peu près illisible cette période-là. Là, vraiment, il commence à radoter. Hein, en 77, c'est la mort de son ami Léon Gataille, son ami d'enfance. En 79, donc, il publie ses mémoires. 81, c'est la mort de son frère. Son frère, qui était ingénieur, qui a monté des aciéries en Dordogne, dans les Pyrénées, et ensuite est parti en Espagne, et dont la fille est une écrivain espagnole un petit peu connue. Et puis donc, 30 septembre 90, Alphonse Karr est mort. Je vais vous lire rapidement les circonstances, c'est paru dans le Figaro de l'époque. Alphonse Karr est mort victime de son imprudence. Mardi dernier, l'ouragan qui s'était déchaîné sur le littoral, la pluie qui faisait rage, ne le retinrent pas. Il était bien portant et sorti dans son jardin où il resta, tête nue et en manche de chemise, donnant comme d'habitude sous l'orage à ses chères fleurs ses soins journaliers. Quittant son jardin, il prit un bateau et alla, recevant sur son corps d'athlète la pluie du ciel, relever ses lignes, puis il rentra mouillé jusqu'aux os. Ses enfants lui donnèrent le conseil de se changer, il n'en fit rien. Donc il a attrapé une pneumonie et il est mort quelques jours après. Ça montre bien le personnage, toujours attaché à la mer, attaché à son jardinage, et puis très confiant dans sa force physique. Et puis donc 91, paraît le roman qu'il avait en cours en 90, qu'il avait terminé, et puis quelques autres ouvrages qu'il avait déjà donnés à son éditeur. Donc on voit que jusqu'à la fin aussi, il a gardé la plume à la main, même quand il n'avait plus rien à dire, il continuait à noircir du papier. Il y a encore quelques ouvrages inédits d'Alphonse Karr qui traînent chez Calman Levy dans les caves, si les souris ne les ont pas mangés. Une production littéraire énorme. Bon, on va en venir maintenant aux guêpes, qui date de 1er novembre 1939 exactement, l'apparition du premier volume. Donc les guêpes, ça se présente à l'origine comme ça. Bon, celles-ci sont un petit peu cuites, mais justement parce que c'était sur du papier qui n'est pas très bon. Et il y a une petite guêpe là pour séparer les paragraphes. Et vous voyez, il y a quand même beaucoup de blanc. Hein. C'était vendu comme ça tous les mois. Et puis donc à la fin, ça faisait 96 volumes, je crois. C'est 96 petits fascicules comme ça. Qu'il a vendu ensuite en édition en 30 volumes. Et puis après, il a pris ses ciseaux, il a fait une édition abrégée en 6 volumes. En juin 39, Théophile Gautier écrit à Girardin. Girardin, là, le patron de la presse. Hein. Je viens de voir Monsieur Karr, il a 3 feuilletons tout prêts qu'il donnerait ce soir, mais vu la difficulté du temps, il désirerait que 150 livres lui fussent remises. Sa situation que vous connaissez ne lui permet pas de faire davantage. Je désirerais fort que ces conditions vous convainquent, car c'est réellement l'homme le plus journaliste de France. On voit là Alphonse Karr dans son personnage habituel, c'est-à-dire à court d'argent, cherchant à vendre absolument du papier noirci à qui on veut. Et donc c'est Gautier, son ami, qui s'entremet auprès de Girardin. Alors le lendemain, Gautier écrit « Karr accepte aux conditions voulues par vous, faites-vous prévertir M. Rouy, c'est le caissier de la presse, qu'il donne les 100 livres. » Donc là, on voit bien Girardin, de 150, il est déjà arrivé à 100. « Rien n'est plus urgent, la famine est à son comble. » C'est ce journaliste-là, l'homme le plus journaliste de France, donc d'après Gautier, qui était quand même assez journaliste aussi lui-même, qui va créer les guêpes peu de mois après. J'insiste un peu sur son aspect démuni parce que ça explique sans doute le pari de ce genre de publication. C'est une publication qu'il fait absolument tout seul. Pourquoi il s'est lancé tout seul? Parce qu'il n'avait pas de capitaux, parce que ses amis qui étaient nombreux n'auraient pas eu confiance d'être payés. Et ni Nerval, ni Gautier, ni qui que ce soit pouvaient lui faire crédit. Eux aussi, ils avaient besoin qu'on les paye au jour le jour. Et ils savaient très bien qu'avec Alphonse Karr, ils seraient difficilement payés. Et puis bon, il n'avait plus rien à perdre. Donc, il a pu lancer une idée aussi originale. Le format lui-même, je vais y insister un petit peu, parce qu'il est original pour l'époque. Hein, ce petit format N32, à l'époque, la presse, c'était quand même une folio, la plupart. Donc, lui, il choisit tout à fait l'inverse, hein, vraiment un petit truc minuscule. C'est un format qui est ancien, qui est périmé, pour ainsi dire, puisque son grand succès, c'était sur la restauration, enfin la première restauration. C'était le format des petits pamphlets politiques. Mais en même temps, c'est un format qui redeviendra à la mode justement à cause des guêpes à partir de 1841, avec les physiologies. Ça permet déjà d'évaluer un petit peu le succès qu'a pu avoir cette publication. Donc ça lui donnait aussi un petit aspect de clandestinité. C'est le genre de petites choses qu'on a dans sa poche qui donne un côté un peu révolutionnaire à sa publication. Donc on verra qu'il correspond plus donc au format qu'au contenu. Le contenu n'est pas très révolutionnaire. Delphine de Girardin dans la presse, donc le journal de son mari, hein, Monsieur Girardin. Alors Delphine de Girardin, il la connaissait bien parce que c'était la fille de Sophie Gay et qu'il avait été rédacteur en chef du journal de Sophie Gay. Delphine de Girardin restera toujours une amie d'Alphonse Karr, Même si avec son mari, il a eu des accrochages assez sévères, justement pour des questions d'articles payés et pas faits, d'articles faits et pas payés. Enfin, ils ont toujours été un peu en chamaillerie et même des fois en procès pour ces questions-là. Mais avec Delphine Gerlin, ça ira toujours. Donc son témoignage est un tout petit peu sujet à caution, puisqu'elle aura tendance à être un peu sympathique. Mais bon, je le prends quand même en compte. Alors, il est dans la presse du mois de... Oui, ça c'est 7 décembre. Et elle écrit « Nous venons de lire enfin le dernier numéro des guêpes de M. Alphonse Karr, et ce n'est pas sans peine vraiment. Rien n'est plus amusant, mais aussi rien n'est plus difficile à lire que ce petit livre. Chacun le veut, on vous l'enlève sans scrupule, celui-ci pour une heure, celui-là pour vous le rapporter le lendemain. Monsieur le met dans sa poche, Madame le cache dans son manchon, bref, tout le monde le lit, excepté ceux qui viennent de l'acheter, et il en a possédé jusqu'à 3 exemplaires des guêpes sans avoir pu même les parcourir un moment. » Donc c'est vraiment le volume qui s'arrache. J'ai trouvé une lettre de Gautier à Gérard de Nerval. À l'époque, Nerval était à Vienne et Gautier lui écrit « Karr fait paraître un petit pamphlet mensuel intitulé Les Guêpes qui a du succès. » Gautier et Nerval étant des intimes de Karr, là on peut déjà penser que le témoignage est sans fioriture. Il y a aussi une lettre de Marceline Desbordes à l'époque à Prosper Valmore justement, du 17 novembre, alors que la première parution, c'est le 1er novembre, donc c'est vraiment le premier volume, et elle lui écrit « Nous t'envoyons de compte à demi les guêpes pour te faire un moment sourire, c'est joliment écrit par M. Alphonse Karr. » Donc là, elle n'avait aucun intérêt dans l'affaire, donc ça laisse croire quand même que ça a bien démarré. Alors, j'ai cherché aussi un petit peu les tirages. Donc, le premier fascicule aura été tiré à 1200 exemplaires, et puis très vite, on arrive à des tirages de 20 à 30 000, Et en 1845, j'ai retrouvé aux Archives nationales que la moyenne sur l'ensemble de l'année de tirage des guêpes est de 50 000. Donc 50 000 pour l'époque, c'est vraiment énorme. On parle souvent des grands succès de la presse et du siècle en 1836, qui faisaient 11 000, 13 000 abonnés. Bon, là, on est quand même beaucoup au-dessus. Bon, sachant que les guêpes sont quand même relativement chères, puisqu'elles sont quand même à 1 franc par mois, alors que les abonnements des quotidiens étaient à 40 francs par an pour un mensuel, c'est quand même relativement cher. Puisque c'était le prix, par exemple, des physiologies qu'on achetait qu'une fois, qui se vendaient 1 franc. Et à l'époque, un livre, ça valait dans les 3 francs 50 à peu près. Sauf certaines éditions un peu plus riches, là, avec les vignettes de Joanneau qui se vendaient dans les 15 francs, mais ça, c'est un peu spécial. Bon, surtout quand on voit la qualité de papier et d'impression, c'est plein de coquilles, enfin, c'est très très mal imprimé, c'est vraiment imprimé à la va-vite. Autre critère aussi de succès, c'est que dès 1840, on trouve les contrefaçons belges. Il y en a deux, il y en a une chez Jamard, et puis une autre, je crois, chez Michel. Il y a deux contrefacteurs à Bruxelles, déjà des guêpes, dès 1840. Ça laisse croire que ça marche pas si mal. Et il y a même une parodie des guêpes dans ces années-là aussi. Donc si on commence à en faire des parodies, c'est vraiment tout le monde les connaît. Parodie en 46 pages, une 32... Je vous lis un petit bout de la préface de ces anti-guêpes, ça s'appelle les anti-guêpes. « Je ne fais pas un grand reproche au grand homme de parler de lui dans les guêpes. Au contraire, dans un ouvrage où l'on s'impose la mission de fustiger les ridicules, M. Karr a naturellement sa place. » Il en prend largement. Et donc, dernier témoignage pour insister un petit peu sur ce succès rapide et total, c'est Sainte-Beuve, 1er février 40, donc dans la Revue des Deux Mondes. Donc une revue réputée sérieuse quand même, puis Sainte-Beuve, un critique réputé austère. Alors voilà ce qu'il dit des guêpes, c'est déjà une analyse évidemment. « Les divers on-dit littéraires et politiques, les propos courants sur les personnes et les choses, sont devenus depuis quelque temps matière à des publications légères périodiques qui, sous cette forme nouvelle, ont assez réussi pour qu'on s'en occupe en passant et qu'on en relève l'espèce d'influence commençante. Il s'agit des guêpes de M. Alphonse Karr, qui en sont à leur quatrième livraison du 1er février. Dans les trois premières, l'auteur a su amuser avec malice, sans être par trop méchant. Qu'il y prenne garde pourtant, l'écueil est là. Il est difficile dans ce métier de persévérer sans passer outre. Monsieur Karr a eu l'idée de dire dans ses guêpes ce qu'on ne lui laisserait dire dans aucun journal. Car tout journal a son genre de vérité particulière à l'usage des rédacteurs et des abonnés. Nous n'en voulons que tirer une conclusion, c'est que si isolé qu'on se fasse, si désintéressé de tout et si moqueur absolu, on tient toujours à quelque chose ou à quelqu'un, ce qui est heureux, mais ce qui gêne le métier. Je concevrais plutôt encore une indignation réelle, sincère, ardente, souvent injuste, une vraie némésis, mais ces guêpes, si acérées qu'elles soient d'esprit, pourtant sans passion aucune, ces guêpes-là ne peuvent aller longtemps sans se manquer à elles-mêmes. Comme tous les recueils d'épigrammes, même les meilleurs, les guêpes de M. Kerr n'échappent pas à l'épigraphe de Martial, « Sunt bona, sunt quaedam mediocra », etc. Il suffit qu'il y en ait de fort piquantes, en effet, que l'auteur y fasse preuve, en courant, d'une grande science ironique des choses. On voudrait voir tant d'esprit d'observation employé à d'autres fins, ça c'est toujours Sainte-Beuve, il trouve jamais que ce soit à son goût. Et puis, il y a fort à craindre que ces guêpes ne pullulent, on parle déjà d'imitation, allons, le charivari ne suffisait pas, nous avons mouches et cousins par nuée. Donc là, on trouve quand même, de la part de Sainte-Beuve, plusieurs prémonitions, notamment que les guêpes vont s'attaquer à des personnalités, lui entre autres d'ailleurs, que c'est vrai que c'est difficile de continuer comme Alphonse Karr avait voulu commencer, c'est-à-dire en étant impartial, en attaquant tout le monde, sans s'acharner plus d'un côté que de l'autre, et sans enthousiasme en quelque sorte, avec ironie uniquement. Donc les mouches, les cousins, il y a aussi eu des abeilles, enfin il y a eu toute une série d'imitations. On en retrouve vraiment des très très grandes quantités dans les années 41-42. J'ai dû en recenser, je crois, 20 ou 25, et je suis sûr de ne pas avoir été exhaustif. Hein. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. La plus célèbre, c'est celle qu'a fait Balzac. Il a fait la revue parisienne. Alors, Balzac, c'est pas compliqué la vie. Il a vu que ça marchait bien pour Alphonse Karr. Il s'est dit, moi, je suis quand même plus fort que lui, donc je vais faire la même chose. Alors, il a pris le même format, il a pris le même prix, il a pris la même périodicité, il a pris le même imprimeur, et il a fait 3 numéros. Après ça, il a fait faillite. Il a perdu, je crois, 15 000 francs dans l'affaire. Alors que Alphonse Karr gagnait pas mal, puisque sur chaque abonnement, d'après lui, il gagne 3 francs nets. Donc c'est un succès aussi qui laisse quelques traces dans la littérature. Comme exemple, l'incipit de l'ouvrage d'un très jeune auteur, un garçon très brillant, très audacieux, qui écrivait en 1845 pour l'exposition de peinture au Louvre. Nous pouvons dire au moins avec autant de justesse qu'un écrivain bien connu à propos de ses petits livres, ce que nous disons, les journaux n'oseraient l'imprimer. C'est exactement une citation du premier numéro des Guêpes. Et le jeune homme en question, c'est Baudelaire. Donc les premières lignes qu'il ait publiées, c'est une citation des Guêpes, pour montrer qu'il est impartial tout en étant un petit peu féroce. Autre point sur lequel je voudrais insister un peu, c'est le fait que donc Alphonse Karr rédige ça absolument seul. C'est pas si courant dans l'histoire de la presse. Avant lui, on peut considérer qu'il n'y en a quasiment pas d'exemple. On a souvent parlé de Addison, mais en fait, il ne l'écrivait pas seul. Il y a un autre exemple, un peu moins connu, à Venise. C'est Gasparo Gozzi, la Gazette vénitienne, qui a duré quelques années, vers 1770, qui a eu un relatif succès, qu'il a effectivement rédigé seul, mais qui était plus connu du tout au 19e. Donc ça, c'est pour les antécédents. Pour les successeurs, j'en ai pas trouvé beaucoup non plus, si ce n'est Dumas, qui a essayé de faire plusieurs journaux à lui seul, qui, pour certains, ont pas mal marché, mais c'est pas vraiment de la presse, dans la mesure où il publiait ses romans et ses mémoires de voyage. C'est plus tellement du journalisme. L'autre exemple qui se rapprocherait vraiment des Guêpes, c'est La Lanterne de Rochefort. C'est un petit format, c'est un pamphlet. J'ose pas trop pousser la comparaison parce que je suis sûr avec ça de fâcher et Alphonse Karr et Rochefort, puisqu'ils n'avaient pas du tout la même conception des choses, et ni même la même façon d'écrire d'ailleurs, parce que Rochefort, enfin, c'est un goût un peu personnel, mais c'est pas tellement écrit. C'est vraiment un pamphlet, c'est vraiment virulent, et c'est beaucoup moins écrit, beaucoup moins pensé. De toute façon, il en reste pas grand-chose, si ce n'est donc que la France compte 33 millions de sujets, non compris les sujets de mécontentement. Un autre aspect intéressant des Guêpes, c'est l'aspect documentaire, puisque ça nous retrace vraiment la monarchie de Juillet dans son détail. Un des utilisateurs des Guêpes, un peu inattendu, c'est pas moi qui l'ai trouvé d'ailleurs, c'est un auteur italien, c'est Flaubert. Flaubert méprisait souverainement Alphonse Karr, trouvait ça misérable, lamentable et tout ce qu'on veut bien, et même pire que ça. Mais cet auteur italien, Alberto Cento, montre bien que pour écrire l'éducation sentimentale, il a repris les Guêpes en 6 volumes, qu'il les a beaucoup étudiés, quoi qu'il en dise, et qu'il les a même utilisés. Et qu'il a même utilisé certains détails des Guêpes pour introduire dans son récit des anachronismes. C'est-à-dire qu'il tenait tellement à conserver ce détail que même quand ça n'entrait plus dans sa chronologie, il l'a malgré tout conservé parce que ça lui paraissait trop typique de l'époque et donc ça lui permettait de bien créer l'ambiance de son roman, hein, puisque l'éducation sentimentale devait recréer entièrement l'époque. Ça reste intéressant pour aujourd'hui, indépendamment de l'aspect historique. Et avant, je vais prendre une petite précaution, je vais citer Vapreau dans le Grand Larousse. Il y a un long article sur les guêpes. Les guêpes renferment donc une période de 10 ans, ce qui d'ailleurs est déjà un jugement, puisque effectivement les guêpes ont eu lieu pendant 10 ans, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, elles ont plusieurs fois ressuscité. Mais c'est vrai que les seules guêpes intéressantes sont celles des 10 premières années. Donc la plus intéressante du règne de Louis-Philippe. Elles n'ont pas de véritable valeur historique, ce qui est faux. Ce sont les boutades d'un homme d'esprit qui parle à propos de tout avec malice, colporte ses bons mots et ceux de ses amis, lance en passant un trait à tout le monde, et à force de vouloir rester neutre entre chaque partie, n'arrive qu'à manifester sa profonde indifférence pour tous. Au point de vue littéraire, leur forme excellente, c'est contestable. Donc, au point de vue littéraire, leur forme excellente, l'esprit, le bon sens et parfois l'érudition véritable que l'auteur dépense à chaque page feront vivre ce recueil original. On y puisera plus tard de précieuses indications sur les hommes du jour, les livres à la mode, les travers du moment. Vapreau l'a très bien jugé, donc là il se met à citer Vapreau. C'est une chose curieuse, dit-il, avec quelle facilité les préoccupations les plus vives d'une époque littéraire s'oublient dans la période suivante. C'est pourtant de ces petits riens que se forme jour à jour le mouvement du siècle. Beaucoup en vivent, quelques-uns la faiblesse d'en mourir. Bon, ça c'est le style de l'époque. C'est l'histoire de ces riens que les guêpes de M. Alphonse Karr ont écrites de leur aiguillon. Histoire extra-historique, si l'on veut, mais dont la postérité, après une première période d'oubli, bon, ça, apparemment il s'est pas trompé de beaucoup, parce qu'effectivement il y a une période d'oubli, se montre parfois très avide. Les guêpes seront un jour les ménagianas de notre époque. On ira y chercher l'envers du manteau plus ou moins brillant que les historiens auront jeté sur nos épaules, on y puisera avec bonheur ces révélations piquantes que nous retrouvons dans les libelles de ménage ou de furetière. Ceux qui traitent l'histoire littéraire suivant la méthode solennelle de M. Nisard les auront bientôt oubliés ou les dédaigneront, mais quelle bonne fortune seront ces légers pamphlets pour les Sainte-Beuve de l'avenir. Voilà ce que prédisait donc Vapreau. Sur l'ensemble, c'est assez juste. Donc, quelques éléments pour justifier le succès. Déjà, la vivacité de l'écriture, l'indépendance des attaques, donc son côté toujours un peu imprévisible, une volonté un peu donquichotesque de dénoncer les injustices, les grandes et les petites, parce qu'il va des fois jusqu'au détail infime, donc de se présenter en redresseur de tort, en contempteur de la société, et puis un côté un petit peu râleur, qui en général plaît bien quand même en France. Et puis, son insistance à toujours mettre en lumière ce que la presse de l'époque essayait justement de cacher, son côté un petit peu canard enchaîné. Et puis bon, il y a aussi les attaques dirigées contre telle ou telle personne, hein. Il y a l'aspect des personnalités, ça plaît toujours au public. Balzac disait que donc les guêpes sont un journal mensuel plein de blancs afin d'avoir des parties innocentes, plein de personnalités, de petites anecdotes fabriquées au coin du feu et de réflexions réimprimées. C'est méchant, mais c'est pas faux, donc c'est d'autant plus méchant. Quand il a écrit ça, Alphonse Karr a commencé à prendre un peu ses distances avec Balzac, et quand ensuite il a fait paraître donc sa propre revue, là ils se sont carrément fâchés. Et donc on parle souvent de pamphlet, mais le terme n'est pas juste. C'est pas un pamphlet, dans la mesure où il n'y a pas de colère, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de thèse à développer. On peut donc pas appeler ça véritablement un pamphlet. Je vais faire comme Alphonse Karr, après tout j'ai poussé la méthode jusqu'au bout, je vais me citer. C'est une habitude qu'a Alphonse Karr, hein. Il se cite et même souvent il oublie les guillemets. Il prend ses ciseaux et il recolle un passage de ce qu'il a déjà écrit. Donc les guêpes et leur public veulent les mensonges et les injustices dénoncées et combattues, mais ne remettent pas en cause l'ordre établi. Refusant l'inféodation à quelque parti que ce soit, s'exclut de l'engagement et de l'action politique. Cette position permet de comprendre le succès des guêpes, mais elle indique, et dans le même temps, leurs limites. L'attitude d'Alphonse Karr est d'un moraliste. Par une honnêteté un peu étroite, il ne cherche pas à convaincre son lecteur, il ne lui propose rien et le laisse à lui-même. Sa dénonciation des abus ne débouche sur aucune véritable réflexion politique, sur aucune critique radicale du système. Il siffle les acteurs et non pas la pièce. Stérile des illusions, vaine satire, critique très insuffisante et sans effet, estimeront certains républicains plus avancés. Et là, je cite Théodore Péloquet. L'influence des guêpes fut presque aussi grande que leur succès, bonne et mauvaise à la fois. Justement impitoyable pour les ridicules, l'égoïsme et l'hypocrisie des partis, mais ne comprenant pas la nécessité ou mieux la légitimité de leur rôle, elles contribuèrent à éloigner de la politique l'attention de la jeunesse. Donc on voit que le projet politique des Guêpes est très très diffus, hein, c'est pas un pamphlet. Mais je veux en venir à la lecture des Guêpes. Préface, avertissement, avant-propos, le tout en 20 lignes. Voilà comment commencent les Guêpes, le tout premier numéro. Ce petit livre est le premier de 12 volumes semblables qui paraîtront successivement et chaque mois d'ici à un an. Ils contiendront l'expression franche et inexorable de ma pensée sur les hommes et sur les choses, en dehors de toute idée d'ambition, de toute influence de parti. Je parlerai sans colère, parce qu'à mes yeux les hommes les plus méchants sont encore plus ridicules que méchants, et que d'ailleurs je suis sûr de leur faire ainsi à la fois plus de tort et plus de chagrin. Je n'appartiens à aucun parti, je juge les choses à mesure qu'elles arrivent, les hommes à mesure qu'ils se manifestent. Je prends peu de choses au sérieux, parce que n'ayant besoin de personne que de mes amis, et ne leur demandant que leur amitié, je sens, je vois et je juge avec le sang-froid et la gaieté tranquille d'un spectateur paisiblement assis. J'adresse mes petits livres aux amis inconnus que je puis avoir dans le monde, aux gens de bonne foi, de bon sens et d'esprit. C'est-à-dire que j'ai pris mes mesures pour n'avoir besoin que d'un petit nombre de souscripteurs. Nous rirons bien ensemble de bien des gens qui voudraient passer pour sérieux, et nous nous amuserons à mesurer la petitesse des grands hommes et des grandes choses. Voilà sa préface. Premier fascicule. Certes, aux personnes qui me connaissent pour un homme de loisirs et de fantaisie, il doit paraître extraordinaire que j'aille ainsi de gaieté de cœur me donner le tracas et l'ennui de créer une publication quand il paraît chaque matin sous le titre ambitieux d'organe de l'opinion publique un si grand nombre de carrés de papier où il me serait loisible de glisser ce que je puis avoir à dire à mes contemporains. Il faut donc que j'ai une raison forte et invincible, et cette raison la voici. C'est qu'il n'y a pas un journal dans lequel on puisse mettre 20 lignes où il n'y aurait ni bêtise ni mauvaise foi. J'en prends à témoin plusieurs de mes amis, hommes d'esprit et de talent, qui écrivent, ou plutôt qui rament, avec tant d'ennui et de dégoût. Je fais mieux, je prouve. Autant que je me le rappelle, au mois de juillet de l'année 1830, une révolution a été faite pour la liberté de la presse, par cette intéressante partie de la population qui ne sait pas lire. La presse est donc libre. Voilà comment ça commence. Mais la liberté étant une vertu, elle prend ses plus funestes ou ses plus grotesques excès pour un progrès, et elle ne se reconnaît pas de borne. Le gouvernement a cru agir sagement en y mettant quelques restrictions à la liberté de la presse. Les conditions fiscales imposées à la presse l'ont retirée des mains des écrivains pour la mettre à celles des spéculateurs et des entrepreneurs. Ainsi aujourd'hui, on ne pourrait citer un seul écrivain possesseur d'un journal. Mais, en revanche, la presse est gouvernée, dirigée par d'anciens bonnetiers, d'anciens pharmaciens, d'anciens avoués, etc. Quelques-uns, les journaux par action, appartiennent à la fois à 2000 épiciers, bottiers, pâtissiers, merciers, rôtisseurs, portiers, perruquiers, bouchers, avocats, et autres citoyens d'une littérature contestable. Le gouvernement, par une de ses maladresses, qui n'y a que les gouvernements qui sachent faire, a fait passer l'arme dont il avait peur des mains des poètes aux mains des hommes d'affaires et des marchands. Les marchands savent ce qu'ils mettent et ce qu'ils risquent dans une affaire, et les bénéfices multipliés par les risques que doit leur rapporter cet argent. Ils ont une tenue, une pertinacité que n'auraient jamais eu les écrivains, qui n'auraient jamais eu en vue que des idées, des paradoxes ou des systèmes. Les marchands vont droit à leur but. Voilà donc sa profession de foi. Oui, j'ai fait quand même quelques thèmes, là, pour choisir les lectures. Je vais essayer de vous parler d'abord des Guêpes, évidemment. Ensuite, politique. Ensuite, on va parler de la société. Après, si j'ai encore un peu de temps, je vous parlerai des faits divers, de la vie quotidienne. Et pour épuiser tout le monde, je parlerai un peu de la littérature vue par Alphonse Karr. Sur les Guêpes, l'action. On va voir les Guêpes en action. Les Guêpes, c'est comme ça que ça se lit. Hein. On prend n'importe quel volume, on ouvre au hasard, on feuillette, et puis on avance. Donc, les Guêpes viennent de gagner 4 ou 5 des procès qu'elles avaient en vain plaidé sous le gouvernement déchu. Ça, c'est en avril 48 qu'il écrit ça. On modifie la prison préventive. L'administration du chemin de fer de Rouen a promis de couvrir ses wagons de 3e classe. On supprime le travail dans les prisons qui portait tant de préjudice aux ouvriers honnêtes. On rachète les chemins de fer que l'État avait eu le tort si grave d'aliéner. Je demanderai pourquoi on ne modifie que d'une manière vague et dans l'avenir le travail des communautés religieuses qui condamnent au dehors tant de filles honnêtes à choisir entre la faim et la prostitution. Je demanderai pourquoi les wagons de troisième classe ne sont couverts tout de suite au lieu d'attendre l'été pour préserver de l'hiver. Voilà ce que demandaient essentiellement les gays. Vous voyez que c'est quand même assez disparate. Donc ça, c'est ce qu'il a réussi à obtenir. C'est malgré tout assez maigre. Au bout de 10 ans de publication acharnée tous les mois, il a à peu près obtenu ça. Et encore, il l'obtient en avril 48, ce qui veut dire qu'en juin 48, tout est foutu. Changement de régime, et il parle du problème des assassinats, et du jury et de la cour d'assises. Et il conclut, et ceci n'est pas un paradoxe, les faits sont là. Tout le monde peut juger et tirer les conséquences. À ce propos, c'est son écriture habituelle, donc c'est toujours à propos de quelque chose qu'il écrit autre chose. Je répondrai à un reproche que l'on m'a fait plus d'une fois. On m'a accusé d'être paradoxal. Il y a deux sortes de paradoxes. Le premier se fait en affirmant le contraire de toute opinion reçue, seulement parce que c'est une opinion reçue. Le deuxième se fait en affirmant ou en niant une chose, quoique l'on se trouve en opposition avec une opinion reçue. Je défie que l'on trouve dans les volumes que j'ai écrits un seul paradoxe qui appartienne à la première classe. Ce n'est pas ma faute si une opinion est souvent d'autant plus absurde qu'elle a plus de partisans et qu'elle est plus généralement acceptée. On ne dit la vérité sur un point qu'après avoir épuisé sur ce même point toutes les formes et toutes les transformations du mensonge. Il n'y avait, sur le soleil et la terre, que deux opinions à émettre. La terre tourne ou le soleil tourne. Est-ce ma faute si on a pendant tant de siècles choisi le soleil et si on a un peu brûlé ceux qui pensaient autrement ? Voilà sa méthode. Un portrait d'Alphonse Karr, quand même, pour voir comment lui-même se présente. Les gens qui ont lu les différentes sottises que quelques journaux ont écrites contre moi seraient bien désappointés si par hasard ils me rencontraient. Comment reconnaître en effet un ami du château, un familier du duc d'Orléans, un écrivain vendu au pouvoir, dans un homme qui vit seul au bord de la mer, qui a le visage brûlé par le soleil, les mains durcies par la bêche et par la rame, que l'on trouverait mêlé avec les autres pêcheurs, vêtus comme eux, les aidant à mettre les bateaux à la mer ou à virer au cabestan pour les monter sur la terre quand la mer est en colère. Dans le plus dur pêcheur de crevettes de la commune, dans un homme qui, si on lui demandait ses papiers, n'aurait à présenter que celui dont voici la copie exacte, France, police de la navigation, nom du navire Larcelin, nom du patron Alphonse Karr, tonnage 95 centièmes, congé valable pour un an, Louis-Philippe, roi des Français, à tous ceux qui les présentent verront salut. Vu les articles 2, 4, 5, 11 et 22 de la loi du 27 Vendémiaire en 11 et l'article 5 de l'ordonnance du 23 juillet 1838, nous déclarons qu'il est donné congé au sieur Alphonse Karr de sortir du port avec le bateau nommé Larcelin, à charge par le dit sieur de se conformer aux lois et règlements de l'État. Le dit navire a été reconnu du tonnage de 15 centièmes de tonneau, non ponté de mât, est actuellement attaché au port de Fécamp. Prions et requérons tout souverain, État, ami et allié de la France et leurs subordonnés. Mandons à tout fonctionnaire public, au commandant des bateaux de l'État et à tous autres qu'il appartiendra, de le laisser sûrement et librement passer avec son bâtiment, sans lui faire ni souffrir qu'il lui soit fait, aucun trouble ni empêchement quelconque, mais au contraire de lui donner toute faveur, secours et assistance partout où besoin sera. Reçu 75 centimes. Certes, voilà qui n'est pas cher. Protégé par tant d'états, de souverains, d'officiers publics, de fonctionnaires et vaisseaux d'état pour 75 centimes. Je donnerais volontiers 75 autres centimes pour être protégé comme écrivain, aussi bien que je suis comme pêcheur. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. J'en rencontrerai une autre fois une preuve convaincante. Voilà le style Alphonse Karr. Vous voyez quand même qu'il tire un petit peu à la ligne. Que j'ai l'impression, je ne sais pas si vous la partagez déjà, à l'usage que Alphonse Karr est plus attachant comme personnage encore que comme écrivain. J'ai fait avec la société, comme les marchands avec les affaires, quand ils ont fait fortune, ils se retirent. La fortune que j'ai faite se compose de l'indifférence et du dédain de tout ce qu'on se dispute, et de tout ce qui est le but de votre vie, et la cause de tous vos chagrins, de toutes vos joies, de tous vos combats, de toutes vos défaites et de tous vos triomphes. Je ne veux rien, je ne désire rien. Combien y a-t-il d'hommes aussi riches que moi ? Pour en revenir aux guêpes, mes fidèles lecteurs n'ont pas besoin de savoir comment je sais les choses, pourvu que je les leur dise. Il leur est égal que mes guêpes traversent la Seine à Quillebeuf ou sur le pont des Arts, qu'elles se reposent dans les fleurs sans parfum des terrasses parisiennes ou dans les ajoncs dorés des côtes de Bretagne ou de Normandie. Ma vie et mes goûts leur sont un garant de plus que je n'ai aucune raison ni aucun intérêt pour ne pas leur dire vrai dans les conversations que j'ai avec eux chaque mois.
écoutez bien et vous allez voir si je sais ce qui se passe au milieu de vous. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont trouvé malin de dire « Comment se fait-il qu'habitant cette adresse, vous nous parlez de tout ce qui se passe à Paris, vous n'en savez rien ?» Bon, il avait ses informateurs, je n'ai pas encore réussi à les détecter. Il y a certainement Léon Gataille, puisque c'est son ami. Sans doute Lautour Mézeray, il y a sûrement Gauthier Nerval, bien que je n'ai pas trouvé de correspondance. Mécart avait l'habitude de détruire les correspondances. Pour certains amis auxquels il tenait beaucoup, il a gardé une lettre ou deux qu'il a encadrées, mais donc ça ne nous renseigne absolument pas. Quant à ses brouillons, s'il a fait des brouillons, ce qui n'est pas toujours évident quand on va commencer à rédiger, on n'en trouve pas. À la Bibliothèque nationale, il y a dans le fonds Rothschild un brouillon de guêpe des années 1870 qui apparemment est un premier jet. Donc apparemment, il n'y a pas de brouillon, et en tout cas, s'il y en a eu, il les a détruits. Donc c'est un homme assez discret. Et par exemple, sa liaison avec Juliette Drouet, on l'a découverte très récemment, puisque c'est en 1918, et tout à fait par hasard, parce qu'il reste deux lettres qu'il a envoyées à Juliette Drouet et qu'elle avait conservées. Mais de lui-même, rien n'avait transpiré. Et il reste aussi une trace dans la correspondance de Barbet d'Aurevilly, où il dit que Juliette Drouet a aimé Alphonse Karr à la rage. Et que Hugo en est fou à battre les chemins. C'est vraiment tout. Mais Alphonse Karr lui-même a essayé d'entretenir le plus grand silence là-dessus. Il estime que le personnage qui s'est construit dans les guêpes est suffisamment sincère et qu'on en sait assez avec ça, qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup au-delà. Mais évidemment, c'est comme tous ces écrivains qui finissent par attacher un public, un peu comme Rousseau. En réalité, on a envie de les connaître davantage que ce qu'ils disent. Donc, il pousse le lecteur à être indiscret et il pousse d'autant plus que lui-même cherche à y échapper. Donc sur la manie de tout imprimer, de tout publier, notre âge aura dans l'histoire un éclat tout particulier. À toutes les époques, on a dit et fait des sottises, mais le temps et l'oubli en effaçaient le plus grand nombre. Aujourd'hui, on écrit, on imprime, on enregistre tout. Et ceux qui viendront après nous, nous prendront pour une génération d'insensés. Bon, on va attaquer un petit peu la politique. Alphonse Karr a quand même un petit peu attaqué Louis-Philippe, il a quand même passablement contribué à le pousser dehors. D'abord dans le Figaro, et puis donc ensuite ici. Et ça, c'est au premier numéro. Je suis forcé de mêler ce premier pamphlet d'une certaine quantité d'aphorismes ou de professions de foi. Je ne parlerai guère de la royauté. Le trône est devenu un fauteuil, la couronne une métaphore. On a mis sur le trône un roi constitutionnel, c'est-à-dire le roi des tragédies, un farouche tyran auquel chaque personnage a le droit de débiter 300 vers d'injures, dont le moindre vous ferait casser la tête par un commis en nouveauté. Un roi qui, si le feu prenait à la France, comme à la maison de certains philosophes, serait forcé de dire comme lui « Cela ne me regarde pas, je ne me mêle pas des affaires de ménage, dites-le à la Chambre des députés. » Un roi pour lequel, s'il veut contenter l'opposition, le mot « régner » n'est plus qu'un verbe auxiliaire comme « être ». Voilà l'image qu'il donne du roi. Une de ses têtes de turc, c'est Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, dont il disait qu'il était capable de mettre le feu à la France entière pour faire cuire son œuf à la coque. Il y a quand même un arrivisme chez Thiers qui est assez sidérant. C'était le début de l'ascension de Thiers. Après 40 ans d'efforts, il finira par obtenir ce qu'il a voulu. Mais un des calembours de l'époque, parce qu'il y a beaucoup de calembours sur Karr, mais un, c'était de dire qu'en effet, Thiers et Karr s'aiment qu'à demi. Il y avait beaucoup de calembours. Hein. Il y avait Karr auteur. Puisque effectivement c'était un auteur qui découpait, qui recollait, donc qui carottait effectivement pas mal. Il y avait aussi Karr avant ses rails. Quand Louis Scollet a essayé de l'assassiner, il y a eu Carbon Harry. Il y en a beaucoup. Hein. Ah oui, c'est vraiment son nom. Oui, c'est vraiment son nom à l'état civil. C'est originaire de Bavière, de Zweibrücken exactement. C'est son grand-père qui est venu en France. Et donc lui-même est né en France, mais en 1848, quand il s'est présenté pour la députation, il s'est aperçu qu'il n'était pas encore français. Donc il s'est fait naturaliser rapidement, mais il s'en doutait pas. Il parlait pas l'allemand, il a fait plusieurs romans sur l'Allemagne, mais il connaissait rien. Il s'est fait documenter par Nerval essentiellement, qui lui parlait très bien l'allemand, puisqu'il avait traduit Goethe. Et chez lui, on parlait pas allemand. Sa mère avait interdit à son père de parler allemand. Donc voici donc Monsieur Thiers, roi de France. Et le roi Louis-Philippe passait à l'état de fétiche, de grand lama. Ayant dans l'État précisément la même influence qu'aurait un de ces bustes de plâtre qui décorent les mairies et les théâtres. Car on sait que M. Thiers est l'auteur de la maxime « Le roi règne et ne gouverne pas ». Or, comme le roi n'est ni électeur, ni juré, ni garde national, il se trouve qu'il est aujourd'hui le moins important, le plus humble, le moins considéré de tous les Français, qu'il n'y a pas un épicier, ni un bonnetier, ni un écrivain à échoppe qui n'ait plus de droit politique et plus d'influence que lui. À propos de Monsieur Thiers, pour nous qui n'espérons, qui ne craignons rien de Monsieur Thiers, qui n'avons qu'une espèce d'intérêt dans tout ce gâchis, nous parlerons de lui sans colère, mais sans aveuglement. Et après ça, il lui règle son affaire. Comportement de Monsieur Thiers vis-à-vis de la Chambre. À l'époque, l'article 49.3 n'existait pas, mais enfin, la pratique existait déjà. Et Thiers s'en privait pas, évidemment. Le petit autocrate, comme l'appelait aussi Alphonse Karr. Il avait pas mal de mots comme ça, le petit autocrate à propos de Thiers. À propos de Louis Bonaparte, il l'appelait l'émeutier Bonaparte, à la suite du coup de Boulogne et de Strasbourg. On ne peut se dissimuler ceci, c'est que nous sommes en plein gâchis. Monsieur Thiers avait été au pouvoir à une époque où le pouvoir était comme un cheval de manège qui tourne de lui-même, change de pied quand il est besoin, etc. Il a trouvé l'allure douce, il a voulu recommencer, le voilà en selle. Mais cette fois, le cheval est dehors. Il a aspiré l'air, il a gagné à la main, il s'est emporté. L'écuyer présomptueux, qui a perdu les étriers, se cramponne de ses petites jambes et de ses petits bras, empoigne la selle, la crinière, et le cheval va franchissant les fossés et les haies jusqu'à ce qu'il trouve un mur pour se casser la tête. Monsieur Thiers est troublé, étourdi, ordonne, signe, bouleverse. Tout le monde le laisse faire. Il a renversé le ministère, ou plutôt les ministères précédents, parce qu'il n'était pas assez parlementaire. Et lui décide, sans assembler les chambres, les questions les plus graves. Il dépense des millions sans contrôle. Deux ou trois journaux seulement, je ne dirais pas, ont gardé l'indépendance, mais ne dépendent pas de lui. La France est sur le point d'avoir la guerre contre toute l'Europe, et cela peut-être est décidé et commencé au moment où j'écris ces lignes. Monsieur Thiers est maître de tout. Son vertige semble avoir gagné tout le monde. Deux ou trois voix étouffées crient inutilement dans le désert. Évidemment, Alphonse Karr fait partie des deux ou trois. Monsieur Thiers joue la France à pile ou face et la pièce est en l'air. Monsieur Arago dîne à Tours, il boit à la réforme électorale. Voici une autre chose, on parle de mobiliser la garde nationale, c'est-à-dire que d'un mot, et parce que cela lui plaît, Monsieur Thiers va envoyer tout le monde aux frontières, vous arrachez tous à vos affaires, à vos plaisirs, à vos amours, à votre liberté. Et on trouve cela tout simple. Et les journaux hurleurs, qui à d'autres époques ont demandé qu'on mit tel ministère en accusation parce qu'il avait dépensé X 1000 francs sans l'autorisation des chambres, qui ont fait tant d'éloquence en poulet, tant de pathos ridicule contre l'impôt du sel, sont muets aujourd'hui pour l'impôt de la liberté, pour l'impôt du sang. Ah, c'est là le gouvernement constitutionnel. C'est là le ministère parlementaire. Cela ne laisse pas d'être joli. Pendant qu'on est dans la politique, on va parler des ministres. Avoir dans les luttes ministérielles les places et l'argent pour but unique et l'administration abandonnée aux commis, on s'étonne que les choses n'aillent pas encore plus mal qu'elles ne vont. En effet, un ministre ne s'occupe que de rester au ministère. Et il est renversé avant d'avoir pu prendre la moindre connaissance de son département. Ce qui fait que les affaires réelles vont encore à peu près, c'est que la vieille machine administrative de l'Empire était très solidement construite et qu'elle subsiste encore. Les ministres sont comme des chiens dans un tournebroche. Il suffit qu'ils remuent les pattes pour que tout aille bien. Que le chien soit beau ou laid, qu'il ait ou n'ait pas d'intelligence, la broche tourne et le dîner est à peu près mangeable. Mais la machine se rouille fort et ne peut tarder à se détraquer. C'est alors que nous serons en plein gâchis. Ça, c'est juin 40. On voit quand même, quand on lit les guêpes à la suite, le régime de Louis-Philippe qui s'écroule de lui-même, qui s'écroule sur lui-même. Et alors, le peuple, dans sa capacité politique, ne faites plus de grandes phrases avec les grands mots de joue brisée, de fer rompu. Allons donc. Les hommes ne sont pas des esclaves, ce n'est pas vrai, ils se flattent. Ce sont des domestiques volontaires qui aiment à changer de place et de maître. Voilà la capacité politique telle qu'il la décrit. On peut même vous lire sur les partis politiques. De 1791 à 1794, il y a eu en France les aristocrates, les monarchiens, les constitutionnels, les républicains, les démocrates, les hommes du 14 juillet, les faillettistes, les orléanistes, les cordeliers, les jacobins, les feuillants, les maratistes, les chevaliers du poignard, les septembriseurs, les égorgeurs, les girondins, les brissotins, les fédéralistes, les modérés, les suspects, les hommes d'État, les membres de la plaine, les crapauds du marais, les montagnards, les accapareurs, les alarmistes, les apitoyeurs, les endormeurs, les dantonistes, les hébertistes, les sans-culottes, les habitants de la Crète, les terroristes, les patriotes de 89, les thermidoriens, une jeunesse dorée, etc., etc. Sous l'Empire, les bourbonistes, les émigrés, les jacobins, les idéologues, les hommes de 89, les napoléonistes, les fédérés, etc. Sous la Restauration, nous avons eu les bonapartistes, les royalistes, les libéraux, les blancs et les bleus, un côté gauche, un côté droit, un centre gauche, un centre droit, les ventrus, les absolutistes, les ultras, les révolutionnaires, le parti de la défection, les constitutionnels, les carbonari, la société aide-toi, le ciel t'aidera, etc., etc. Depuis la Révolution de Juillet, nous avons eu les carlistes, des légitimistes, des philippistes, des henriquinquistes, des impérialistes, des hommes du mouvement, des hommes de la résistance, le parti de l'avenir, des républicains de 93, des républicains à l'américaine, des saint-simoniens, des fourriéristes, des phalanstériens, des humanitaires, des boussingots, des radicaux, des patriotes, des hommes de progrès, des justes milieux, des modérés, des politiques, des doctrinaires, des amis de l'ordre, des hommes du tiers-parti, un côté gauche et un côté droit, un centre droit, un centre gauche, des monarchistes, des amis du peuple, des anarchistes, des réformistes, des jeunes France, de la société des droits de l'homme, la société des familles, des réactionnaires, les conservateurs, le parti socialiste, etc., etc. Beaucoup de gens font semblant de prendre les guêpes pour une facétie sans but. On va attaquer les problèmes de société. On l'a vu, Pierre n'était pas tout à fait persuadé de la capacité politique du peuple, du moins l'état des choses à l'époque. Évidemment, il réclamait qu'on l'instruise le peuple pour lui donner cette capacité, mais tant qu'il ne l'avait pas, ce n'était pas la peine de réclamer un droit de vote. Mais si toutes ces phrases dont se servent les rois, de sujets qui sont leurs enfants, d'amour paternel qu'ils leur portent, de cœur déchiré des souffrances du peuple, ne sont pas une insolente mystification, ce doit être un sujet d'affliction profonde et de deuil véritable que la nouvelle qu'une femme est morte de faim. Dans le quartier du quai des Hauts-Fleurs, près du palais de justice. De cette maison où l'on condamnerait aux travaux forcés le malheureux qui aurait volé un pain d'un sou à un boulanger, tandis que le boulanger qui vole un sou sur le poids du pain et rogne la portion si péniblement gagnée d'un des enfants d'une pauvre famille en sera quitte pour 5 francs d'amende. Bêtise féroce. Mais qui s'occupe du peuple à la chambre et ailleurs? Les prétendus amis du peuple l'exploitent plus que les autres encore. Leurs plaintes niaises, fausses et hypocrites sur la misère du peuple n'ont pour but et pour résultat que d'exciter ce lion endormi et de le lancer contre les hommes qui gênent leur ambition et leur avidité. Puis, quand il leur aura rendu ce service, ils profiteront de ce qu'il aura été blessé au profit de leur avarice et de leur vanité pour le remuseler plus fort qu'il n'était. Le peuple n'est qu'un prétexte et un moyen. Ce serait cependant une belle chose que la position d'un homme, d'un député, qui voudrait être réellement l'ami du peuple.
Donc là, on voit déjà, c'est quand même écrit en mars 40, la révolution de 48, décrite assez exactement. Jamais le hasard ne m'a fait rencontrer un homme ayant faim sans que je lui ai rien donné à manger. Jamais un ouvrier sans ouvrage n'est venu me confier sa misère sans que je l'ai aidé et soulagé. Ouvrier que je suis moi-même, vivant comme lui de mon travail de chaque jour, j'en atteste mes voisins et les habitants de mon quartier. Je prends donc le droit de ne pas faire de la philanthropie ampoulée et de la sensibilité emphatique, et je dis franchement que je suis peu touché en cette circonstance du sort des ouvriers. C'est à propos d'une grève qu'ils considèrent un peu trop sauvage. Quand les ouvriers ont de l'ouvrage, ce n'est pas chez eux que l'on trouve la misère. C'est dans une classe qu'on leur apprend sottement à envier et à haïr. Voyez l'employé. À 16 ans, il entre surnuméraire. Il reste au moins 4 ans sans rien gagner, puis il obtient une place de 800 francs. Il est de 600 francs s'il est dans l'administration des postes, c'est-à-dire 31 sous par jour, et on exige qu'il soit mis décemment, et le moins bien payé des aides-maçons gagne 50 sous. Et je ne vous parle pas du menuisier en voiture qui, à la tâche, peut gagner 9 francs par jour, des charrons qui gagnent 7 francs, de l'étireur de ressort qui, à ses pièces, peut gagner 30 francs la journée, etc., etc. Hélas, mes bons messieurs les journaux, hélas, mes bons messieurs du gouvernement, c'est à vous qu'en est la faute, et j'ai peu de pitié de vos anxiétés et de votre embarras. Vous, messieurs du gouvernement, pendant 15 ans, vous n'étiez pas alors aux affaires, vous avez crié au peuple qu'il était souverain et maître, que tout devait se faire par lui et pour lui, que tout devait être à lui, et que tous ceux qui avaient quelque chose le lui volaient. Vous l'avez ainsi ameuté contre le pouvoir d'alors, il s'est battu, il a renversé le gouvernement dont vous avez pris la place, puis vous avez dit au peuple « Peuple, tu as conquis le droit de faire ta corvée comme tout le monde. Allons à l'ouvrage, une demi-truelle et au sas, gâchis serré. » C'est fort bien, mais dans le partage que vous avez exécuté des choses conquises, vous avez fait des mécontents. Ceux-là, messieurs des journaux, ont répété contre vous ce que vous aviez dit contre vos prédécesseurs. Ils ont crié au peuple qu'il était souverain, plus volé, plus opprimé, plus muselé que jamais.
sauf à le renvoyer à l'ouvrage quand vous les aurez renversés pour vous mettre à leur place. Vous avez tour à tour prêché le dogme absurde de l'égalité qui consiste non à s'élever jusqu'aux autres mais à baisser les autres jusqu'à soi, et puis vous vous étonnez, vous demandez niaisement « Que veut la classe laborieuse ?» La classe laborieuse veut simplement ne pas travailler, comme vous, comme tout le monde. Un dernier extrait sur le peuple, celui-là je le lis surtout parce qu'il a servi à Flaubert. Vous trouverez que dans l'éducation sentimentale, Flaubert parle de l'ouvrier plus malheureux que les nègres. C'est du Alphonse Karr. Tome 6, page 58. Il faut marcher avec son siècle, messieurs. Regardez autour de vous et consultez-vous vous-même avec bonne foi. Il n'est pas un crime qui inspire une horreur égale à celle qui inspire le crime de non-monnaie. Ça, c'est une idée qu'il débattra souvent. De même que l'idée du pain, si on le vole, on va en prison, mais si le boulanger vole les gens en mettant pas le poids, lui n'aura qu'une faible amende. Ça, alors, c'est vraiment une rengaine, puisqu'il dit qu'il le répétera jusqu'à ce qu'il obtienne satisfaction et qu'on ne vende plus donc une baguette de pain, mais un kilo de pain. Et il dit aussi, je ne sais plus trop où, qu'on l'accuse de se répéter, mais on a tort, parce qu'il est normal de toujours crier aux voleurs tant qu'il y a des voleurs. Bon, sans compter l'aspect de comique, de répétition, puisque quand on est abonné au Guêpe, on retrouve toujours les mêmes... C'est une forme du comique. Donc le crime de non-monnaie. Je n'en veux pour preuve que ceci, dont vous n'aurez pas besoin de chercher longtemps des exemples dans le monde, c'est qu'il n'y a pas de moyen honteux qui ne soit honnêtement employé aujourd'hui pour se procurer de l'argent. Parce que quelque honteux que soit ce moyen, il l'est beaucoup moins encore que de ne pas avoir d'argent. À quoi servent les gens qui n'ont pas d'argent ? Pour eux-mêmes, ils ne peuvent rien être. Ils n'ont plus droit, comme autrefois, à toutes sortes de considérations que leur témoignaient même des gens qui n'auraient pas voulu être à leur place. On est quelque chose qu'en proportion de ce qu'on a de portes et de fenêtres. C'est une référence au sens. On était électeur en fonction de l'impôt qu'on payait, du sens qu'on payait, et on payait le sens en fonction des portes et fenêtres. Alors ça aussi, ce sera une de ces boutades, de dire qu'on est gouverné par les portes et fenêtres. Donc pour lui-même, celui qui n'a pas d'argent est inutile. Pour autrui. Comme il est établi aujourd'hui que les autres ne servent qu'à faire gagner de l'argent, que les relations de société se bornent à jouer au lansquenet ou à parier pour ou contre des chevaux, comme les gens sans argent ne peuvent prendre d'action dans rien, qu'ils ne mordent à aucun des hameçons que tendent les honnêtes gens, comme on ne peut rien leur gagner, leur prendre ni leur voler, ils sont au moins inutiles. Ce qui est inutile est embarrassant et ne peut tarder à être dangereux. Les gens sans argent menacent donc par cela la société. Ce que la société fait contre eux n'est qu'une sorte de représailles préventives. On peut se les permettre sans remords. Et comme d'ailleurs on n'a plus aujourd'hui de devoir qu'envers soi-même, c'est un devoir rigoureux de leur faire une guerre acharnée. Les honnêtes gens, c'est-à-dire les gens ayant le sens commun, enfin évidemment ce sens commun il écrit CENS, hein, et un nombre suffisant de portes et fenêtres, doivent donc se prêter un mutuel appui contre l'ennemi public. Je le répète, messieurs, vous êtes trompés en assimilant le crime de non-monnaie au crime de fausse monnaie. Et les honnêtes gens espèrent que vous ne laisserez pas passer la session sans revenir sur un vote qui a répandu une juste alarme et ne pourrait manquer d'apporter quelques difficultés à la réélection de ceux qui se sont acquittés de leur mandat. Certes, l'esclavage, quelle que soit sa forme, est quelque chose d'odieux et d'inhumain. Je n'ai jamais même consenti à discuter le prétendu droit que les hommes s'arrogent sur la liberté d'autres hommes. Mais il me semble que les préoccupations qu'affichent tant de gens pour les esclaves des colonies pourraient bien avoir en réalité le but que le sage que j'ai cité prête aux hôpitaux de fous. C'est-à-dire qu'il y avait une anecdote avant disant qu'on crée des hôpitaux de fous pour faire croire que ceux qui ne sont pas dans l'hôpital ne sont pas fous. Mais d'après lui, c'est faux. Il semblerait, en effet, en voyant les représentants du pays s'occuper avec tant d'ardeur d'affranchir les nègres, que tous les blancs sont libres et que la France ne renferme pas des millions d'esclaves, plus esclaves et surtout plus malheureux que les nègres des colonies. Il est vrai que les nègres que l'on affranchit sont en général les nègres d'autrui et que les réformes qu'il faudrait apporter au sort des esclaves blancs pourraient toucher directement aux intérêts de ceux qui voteraient ces réformes et qui, en conséquence, préfèrent ne pas les voter. Plus de la moitié des ouvriers en France sont plus malheureux que les nègres. Et si l'on ne peut pas faire davantage pour eux, il faudrait permettre à ceux qui méritent l'intérêt par leur bonne conduite, leur pauvreté et leur amour du travail, de passer nègre en forme de récompense et d'encouragement. C'est sans doute dans cet espoir qu'un grand nombre d'ouvriers français s'embarquent pour les colonies, ainsi que le mentionnent les journaux. Voilà sur donc le sort des ouvriers à l'époque. L'éducation, par exemple. sujet d'actualité aussi. Il n'est peut-être pas inopportun de dire, à propos de conspiration, quelques mots sur l'éducation qu'on reçoit en France. Cette éducation est entièrement et exclusivement littéraire et républicaine. Tout élève qui a profité de ses études sort du collège, sinon poète, du moins versificateur, et animé d'une haine profonde contre la tyrannie. C'est le moment où il doit devenir commis dans un bureau de ministère, ou chez un banquier, ou ferblantier, ou limonadier, ou fabricant de cheminées capnofuges. Voici pour l'éducation littéraire. Pour ce qui est des principes, les vertus qu'on lui a fait admirer au collège sont toutes prévues par divers articles de notre code pénal. Les 20 premières pages de titre-livre, contenant l'histoire des premières années de Rémus et de Romulus, seraient, dans la bouche d'un procureur du roi, un réquisitoire entraînant 7 ou 8 fois la peine de mort et 650 ans de travaux forcés au minimum et en admettant les circonstances atténuantes. Voir titre-livre et le code pénal. Voilà sa vision de l'éducation. Son idée, c'était qu'il fallait faire beaucoup plus de sport et beaucoup moins de latin. Sur le service militaire, votre problème de société. On vient de soulever à la Chambre des députés une question grave, celle du remplacement militaire. Comment se fait-il que les Français, si fiers de leur gloire militaire, payent des gens pour se battre en leur place et fassent moissonner les lauriers comme un riche fermier fait faire ses foins, par des hommes de peine et des domestiques à gages? Cet impôt de la vie, cet impôt du sang, il n'y a en France que deux classes d'hommes qui le payent en nature, les indigents et les fils du roi. Les autres se font remplacer. Les marchands d'hommes, assure-t-on, sont au moins protégés par la Chambre. De ce grand zèle pour l'affranchissement des nègres, qui fait supporter aux députés jusqu'aux humiliantes avanies du droit de visite, ils devraient bien garder une part pour faire cesser cette infâme traite des Blancs. Le service militaire est devenu odieux en France, il faut le dire, parce que les gens d'une certaine aisance et d'une certaine éducation se font tous remplacer. Les assurances ont fait descendre la facilité du remplacement beaucoup plus bas encore. Un jeune homme d'une famille honorable, d'une éducation libérale, se trouve dans un horrible isolement si le sort le fait soldat. Si tous les Français indistinctement à l'âge de 20 ans étaient soldats, on pourrait diminuer le temps du service. Ce serait un impôt que tout le monde paierait également et qui cesserait d'être odieux. Quelle bonne plaisanterie, en présence du remplacement militaire, que cet article de la charte « Tous les Français sont égaux devant la loi ». On voit bien que les GUEP ne sont pas un pamphlet, comme on disait au départ. Ce sont des faits dits froidement et réellement.
Justice, autre problème assez contemporain.
Un magistrat disait que s'il était par hasard accusé d'avoir volé les tours de Notre-Dame, il commencerait par prendre la fuite. Voilà pour la justice à son époque.
Le chemin de fer.
Il est réellement fâcheux et tout à fait de mauvais goût que messieurs les assassins, étrangleurs et empoisonneurs ne veuillent pas suivre l'exemple que le jury s'obstine à leur donner en abolissant la peine de mort, laquelle en effet n'existe plus que pour des bourgeois innocents, auxquels on se fait beaucoup moins de scrupules de l'appliquer depuis que cela ne revient pas plus cher qu'un simple vol. La peine de mort vient cependant être infligée par messieurs les banquiers de grand chemin, propriétaires du chemin de fer d'Orléans, à un ouvrier qui, après avoir couru pour arriver avant le départ, s'est placé tout en sueur dans un de ces wagons découverts dont on inflige la torture à ceux qui ne veulent pas donner 5 francs de plus. Le malheureux, saisi par le froid, était déposé en route et est mort au bout d'un jour ou deux. La compagnie n'ayant pas voulu admettre les circonstances atténuantes pour un crime aussi grand que celui de n'avoir pas 5 francs, et la patience des banquiers étant à bout, ils ont dû faire un exemple. À propos de chemin de fer, celui de Versailles, rive gauche, vient de justifier le titre funèbre de convoi que l'on donne au train de wagon. Ceci prouve surabondamment la sottise que l'on a faite en votant 2 chemins de fer pour Versailles et aussi amène une réflexion fort simple sur les concessions de chemins de fer faites aux compagnies industrielles. Des chemins qui se construisent en ce moment, les uns seront très productifs, les autres le seront moins. Et les autres ne le seront pas du tout. Les compagnies propriétaires des seconds et des derniers ne pourront pas supporter les mêmes frais que celles qui exploitent les premiers. Elles chercheront à faire des économies, les rails et les machines seront moins bien entretenus et moins fréquemment renouvelés, les mécaniciens, les chauffeurs, les conducteurs payés moins cher seront moins bien choisis, on économisera tout, excepté la vie des voyageurs. Si au contraire l'État avait seul construit et exploité les chemins de fer, les bénéfices de certaines lignes compensant les bénéfices moindres et les pertes de certaines autres, on aurait donné partout les mêmes soins. Voyant tout ce qui se fait aujourd'hui, il n'est nullement question de l'intérêt du pays. Il s'agit de payer des dévouements mercenaires et des désintéressements avides. Il faut diviser tout en morceaux pour en faire des proies ou des amorces. Ce que j'aurais peut-être dû ne pas dire aujourd'hui, que le présent volume a pour but d'envoyer aux gens des compliments et des bonbons. Ah oui, ça c'est parce que c'était janvier 1845. Donc il avait dit qu'il dirait de mal de personne, qu'il serait très gentil, qu'il n'aurait que des compliments et des bonbons. Mais bon, il s'est laissé avoir, il a parlé des banquiers de grand chemin. On peut attaquer les faits divers. Louis Collet, on peut le résumer rapidement. C'est l'histoire de la piqûre du cousin. C'est le passage le plus célèbre des Guêpes. On m'avait raconté que Monsieur Cousin, qui est assez mal élevé, avait manifesté une arrogance de mauvais ton à l'égard des hommes de lettres et des académiciens. On lui avait demandé, sans doute, sur les sommes affectées à cet emploi, un secours pour un écrivain malheureux, et qu'il avait répondu brutalement « Je ne donnerai rien, ces gens-là m'ennuient ». Que rencontrant M. de Pongerville, l'académicien sur le Pont des Arts, il lui avait dit « Il n'y a que vous, monsieur, dont je n'ai pas reçu la visite. Cela vient, monsieur, aurait répondu M. de Pongerville, de ce que j'attends la vôtre ». Cousin, c'est Victor Cousin, le ministre de l'Instruction publique. Eh bien, toutes ces choses et une foule d'autres qu'on m'avait racontées, toutes ces choses, après des informations scrupuleusement prises, se sont trouvées être parfaitement vraies. Mais ce qu'on ne m'avait pas raconté d'abord, et ce que le hasard m'a fait découvrir depuis, c'est la touchante sollicitude de M. Cousin pour la littérature. La chose, il est vrai, ne s'applique qu'à une seule personne. Mais il n'y a aucun doute à former que M. Cousin ne soit prêt à se conduire de même à l'égard de tout autre personnage littéraire qui se trouverait dans le même cas. Abuno discès omnes. Discès omnes, plutôt. Il s'agit de Madame C. Néer. Il a expurgé, mais dans les petits fascicules, il avait marqué très clairement Madame Collet Nérevoile. Mais là, dans l'édition suivante, il a mis des petites étoiles que tout le monde connaissait, donc il pouvait se permettre. Ça avait fait un tel tapage à l'époque. Qui a obtenu un prix de poésie à l'Académie, et qui, ne se trouvant pas assez en évidence par la lecture de ses vers, sa présence dans l'Assemblée et la proclamation de son nom, demanda avec tant d'insistance à lire elle-même la pièce victorieuse. Mademoiselle Revoile, donc, après une union de plusieurs années avec M. Collet, a vu enfin le ciel bénir son mariage. Elle est près de mettre au monde autre chose qu'un alexandrin. Quand le vénérable ministre de l'Instruction publique a appris cette circonstance, il a noblement compris ses devoirs à l'égard de la littérature. Il a fait pour Madame Collet ce qu'il fera sans aucun doute pour toute autre femme de lettres à son tour. Il l'a entourée de soins et d'attention. Il ne permet pas qu'elle sorte autrement que dans sa voiture. À un dîner chez M. de Pontcherville, qui suivit de près la rencontre sur le Pont des Arts, tout fatigué, désireux de se retirer, l'attendit l'heure de l'intéressante poète pour la reconduire dans son carrosse. Il est allé lui-même chercher un une nourrice pour l'enfant de lettres qui va bientôt voir le jour, et on espère qu'il ne refusera pas d'en être le parrain. Eh bien, voilà de ces choses que la presse, qui devrait être pénétrée de reconnaissance, affecte d'ignorer et de condamner à l'oubli. Donc, à la suite de ça, Louis Collet s'est présenté chez Alphonse Karr avec un couteau dans son ombrelle et a cherché à l'assassiner. Évidemment, dans les guêpes suivantes, il raconte la tentative d'assassinat. Il prétend qu'il a pris le couteau, qu'il l'a mis dans un cadre et qu'il a donc inscrit au-dessous « Offert par Madame Collet » dans le dos. Et comme Cousin ne voulait pas trop que ça passe en jugement, il avait dépêché Sainte-Beuve, qui à mon avis n'était pas un bon choix, parce que Jucard n'appréciait pas vraiment Sainte-Beuve, même pas du tout, pour arranger les choses. Et alors, dans les guêpes, encore un peu plus tard, Carr dit que le dévouement de M. Sainte-Beuve dans cette affaire lui a permis d'obtenir le poste de bibliothécaire de la Mazarine. Ce qui est exact, hein, c'est exactement concomitant, et le décret, enfin l'arrêté plus exactement, est signé par Cousin. Le rapport de cause à effet est certain. Allons jusqu'au bout dans l'indiscrétion, et rappelons que Louise Collet a quand même été la maîtresse donc, de Flaubert, de Musset, de Vigny, et donc de Cousin. Autre fait divers, plus anodin. Ouais, je vais vous lire aussi l'introduction parce que ça donne un petit peu une idée du style pas très bon, mais très bucolique qu'aimait Alphonse Karr. Je regardais l'autre jour sur une feuille d'un rosier planté au bord d'un ruisseau, une goutte de pluie plus brillante qu'une opale. Tout à coup, elle roula tout le long de la feuille et tomba dans l'eau du ruisseau où elle se perdit. C'est par l'individualité que charme un poète. Vous étiez un tout, pourquoi devenir une partie? Il y a un grand nombre de pierres à la base d'une pyramide, il n'y en a qu'une au sommet. Le rossignol chante seul dans les buissons en fleurs, les oies volent en groupe. Vous êtes entré à l'académie en enfonçant les portes. En vain, vous avez caché votre triomphe. En vain, vous avez pris une allure modeste et hypocrite. Ça n'était pas la peine de se faire Victor Hugo pour devenir l'un des 40. Mon pauvre Victor, vous voilà donc enfin l'égal de M. Flourens. Tout le monde dit maintenant que vous voulez devenir député, c'est-à-dire l'un des 450. De succès en succès, si on vous laisse faire, vous arriverez à être l'un des 33 millions qui composent la nation française. Voilà comment il félicitait son ami, malgré tout, Victor Hugo, au moment de son élection à l'Académie française. J'avais parlé de la révolution de 48. Donc mars 1848, là je suis obligé de bien préciser la date parce que ça a son importance. Un gouvernement qui n'avait pas de lien entre ses partis que des intérêts vient de se dissoudre comme un marchand qui fait faillite. Ses amis, c'est-à-dire ceux qui brocantaient avec lui les affaires du pays, sont ceux qui lui ont tourné le dos avec le plus d'ardeur. Une famille royale dont deux ou trois membres étaient cependant populaires s'est enfuie d'une façon si triste que je me suis pris à regretter de ne pas avoir été leur ami pour le rester. On avait reverni au dehors le vieil arbre de la royauté, mais il était creux et vermoulu au-dedans, il est tombé. Paris a déclaré la France République, la province a envoyé son adhésion. Parlons de ce qui est. Je n'étais pas, je ne suis pas du parti républicain. Mais la République n'appartient pas à un parti, elle appartient à la France. Je suis de la France républicaine et j'en suis avec tout ce que je puis avoir de force, d'intelligence et de dévouement. Personne n'était prêt pour la République, ses plus ardents partisans ajournaient leurs efforts à la mort du roi. Ce qui est arrivé, personne ne l'a fait exprès, à moins que ce ne soit Louis-Philippe peut-être. C'est ordinairement pendant les basses eaux qu'on construit les digues. Il a fallu cependant en donner à un torrent subitement accru. Et heureusement que du sein d'un gouvernement provisoire, improvisé nécessairement par 20 personnes, il s'est élevé un homme qui a passé la moitié de sa vie à écrire des choses entre les plus dignes d'être lues, et qui a commencé alors à faire des choses dignes d'être écrites. Grande et belle existence que Byron n'a pu que rêver. C'est Lamartine, sa grande idole politique. Il y a un poème de Lamartine, très mauvais d'ailleurs, où il décrit Alphonse Karr qui vient le voir chez lui. Il le reçoit dans sa salle de bain d'ailleurs. Et il parle des grands à-propos d'Alphonse Karr. C'est-à-dire que visiblement, Lamartine prenait conseil auprès d'Alphonse Karr au moment où il gérait la révolution de 48. Donc cette adhésion qui semble universelle en France cache de grandes craintes. C'est à ces craintes qu'il faut parler. Pensez que tout ce que la peur imaginera, c'est la peur qu'il réalisera, qu'elle seule peut donner des corps aux fantômes qu'elle rêve. Quelques-uns pensent que la République sera une époque de haine, de réaction, d'anarchie, de misère. Ajoutez tout ce que vous pourrez imaginer de plus triste et de plus effrayant, et je vous réponds, c'est parfaitement possible si le pays le veut, si on est lâche, si on est indifférent, si on est niais. Mais aussi, si le pays le veut, ce sera le gouvernement des meilleurs, des plus intelligents, des plus honnêtes, dans l'intérêt de tous. Ce sera un splendide développement de l'intelligence, du bien-être, de la moralité. Il suffit que tout le monde apporte son concours sincère, loyal, entier. La République n'est pas telle ou telle chose que vous représente votre mémoire ou votre imagination. La République, c'est tout ce que vous pouvez rêver de plus beau, si nous le voulons tous. Ce grand bouleversement vous effraie, mais on ne pouvait nettoyer les tables d'Augias avec un plumeau. D'ailleurs, c'est fait. Je vais passer à la période juste après la Révolution. Espérons que cette révolution ne sera pas une révolution politique, mais une révolution sociale, c'est-à-dire qu'elle ne consistera pas seulement à renvoyer 200 administrateurs engraissés pour donner leur place à 200 administrateurs maigres, qu'il faudra que le pays engraisse à leur tour. Espérons qu'elle aura une influence sur les mœurs et qu'elle détruira le funeste effet de cette maxime si profondément immorale d'un des derniers ministres de Louis-Philippe, « Enrichissez-vous ». Là, on voit bien le côté moraliste d'Alphonse Karr, beaucoup plus que pamphlétaire. On arrive à juin, la réaction de juin donc, et là en décembre. Cependant, pour reprendre l'histoire où nous l'avions laissé tout à l'heure, le peuple, la carte du festin promis à la main, grondait sourdement. Il avait offert 3 mois de misère à la République. Parole sublime qui lui fait pardonner bien des erreurs. Le délai demandé était écoulé. Les marmitons du peuple n'achevaient pas de mettre le couvert. La table faite pour 10, malgré les rallonges, ne pouvait admettre qu'un petit nombre de convives. Il n'y avait pas assez de chaises, pas assez de couverts, ni d'assiettes. Tout le vin de la champagne n'aurait pu fournir un verre à chacun. Il y avait aussi des mets sur la carte qu'on ne pouvait réaliser. Les côtelettes de sphinx à la purée de chimère ne se trouvaient nulle part. On les avait vantées et promises, le peuple y tenait. On lui offrait en remplacement des côtelettes de porc frais aux cornichons, qui sont cependant une fort bonne chose. Il n'en voulut pas entendre parler. Il envahit la salle du festin et commença à casser les assiettes. Les marmitons sautèrent par les fenêtres. En langage parlementaire, cela s'appelle donner sa démission. C'est une référence aux événements donc de fin mai, là où le peuple envahit la chambre et où les députés ont bien du mal à faire bonne figure. c'est-à-dire qui arriva la terrible insurrection de juin, où pour sauver la France et la société, il fallut tuer des hommes qui n'étaient pas forcés de savoir qu'ils étaient criminels, en essayant de recommencer ce qui leur avait attiré tant de louanges quelques mois plus tôt. Donc voilà la réaction qui se met en place. J'indique juste un tout petit point pour montrer à quel point c'est un homme pratique, un peu curieux parfois quand même. Il y a dans la rade du Havre, comme dans celle de tous les ports, un certain nombre de tonnes ou bouées flottantes qui servent à indiquer le passage au navire. Ces bouées sont en fer creux et présentent une surface unie. Un malheureux naufragé essaierait en vain d'y trouver un appui, il déchirerait ses ongles et se noierait à côté. Pourquoi ne pas adapter à ces bouées des poignées qui permettraient à un homme en danger de s'y cramponner et d'y attendre les secours? Mais qui s'occupe de pareils détails? Il y a un côté un peu facétieux, un peu désinvolte, et en rupture avec la société, et l'espoir d'une société meilleure. De ce côté-là, c'est romantique. Mais...
Et le merveilleux passage politique sur la nature.
Ah oui, j'ai pas lu la litanie de la nature. Ah oui, c'est dans le tome 4, page 284 à 87. Il y a un comique de répétition et il y a quelques têtes de turc comme ça. Il y a notamment l'orthographe de Rambuteau. Alors régulièrement, il ressort les mêmes blagues sur l'orthographe de Monsieur Rambuteau, là, le préfet de Paris, qui apparemment avait quand même une orthographe déplorable, parce que j'ai retrouvé, je crois dans Baudelaire, une allusion en effet à l'orthographe de Rambuteau. Donc, il était très ami avec Gavarni. Mais Daumier est plus acide.
Oui.
Mais Carr garde un petit côté amusé malgré tout. Que Daumier n'a pas.
À un moment donné, il y a un timbre du fisc.
Il essaie une page blanche avec le timbre du fisc et en dessous, il ajoutait seulement « page salie par le fisc ». Et il a fait ça pendant des mois. Il n'y a plus qu'un maniaque pour publier sur Alphonse Carr. Il n'en reste qu'un. Oui, oui. Les guêpes, ça a été beaucoup tiré. Lévy en a vendu, je crois, dans les 150 000 exemplaires, quelque chose comme ça. Donc on les trouve facilement. Mais ça a été réédité jusqu'en 1890. Ah si, il a beaucoup d'amis. Il a une longue amitié avec Nerval, qui ne s'est jamais démenti hein, jusqu'à sa mort. D'ailleurs, Nerval en parle dans Aurélia. Il raconte quand Carr vient le tirer de chez le docteur Blanche. Il le voit même en rêve, qui le sauve de la folie. Il en parle aussi dans les châteaux de Bohème, où il explique qu'Alphonse Carr a réussi à sauver son grand buffet Renaissance, quand Nerval a fait faillite avec son journal L'Allemand Dramatique. Carr a sauvé le buffet, mais après, Carr a été poursuivi par les huissiers à cause de son divorce. Alors, il a eu un mal de chien à le sauver, il l'a repassé à un ami pour pas que les huissiers puissent le prendre. Enfin, il y a une grande amitié avec Nerval. Il y a une amitié constante aussi avec Gautier, depuis l'origine, avec Dumas, du ma père, jusqu'à la mort aussi. Avec Hugo, bon, l'amitié est un peu plus distante, disons, mais... Bon, ils ont quand même beaucoup de choses en commun, fils que Julien Drouet, mais... Enfin, il y a quand même une amitié assez longue, même si elle n'est pas dépourvue d'ambiguïté avec Hugo. Il était très très fidèle en amitié, malgré tous ses sarcasmes. Il y a à peu près qu'avec Balzac qu'il soit fâché.
Ils avaient commencé déjà à se froisser un petit peu.
Quand Balzac a voulu cultiver des ananas à Ville d'Avray, Carr lui a dit que c'était peut-être pas la meilleure idée, que ça risquait de pas être une bonne spéculation. Alors Balzac s'est fâché et il a dit que c'était idiot parce que c'était vraiment le comble du génie spéculatif et que en démocratisant l'ananas, il allait faire une fortune gigantesque en l'espace de quelques semaines. Évidemment, il a fait encore une mauvaise opération et il en a voulu déjà à Alphonse Carr de l'avoir mis en garde. Bon, ensuite, ils se sont fâchés durement pour la revue parisienne. Carr a eu un geste assez tactique, enfin assez astucieux, j'ai trouvé. Il a attendu que Balzac ait fait sa faillite avant de dire dans les guêpes que M. Balzac fait paraître... Il n'a pas voulu faire de publicité avant. Quand sa revue a disparu, il en a parlé. Pour en dire tout le mal qu'il en pensait.
C'est difficile.
Si, mais alors vraiment, exécrable. Il y a un critique de l'époque, avant même qu'il ait produit ses pièces, il disait, Monsieur Alphonse Carr a des velléités de faire du théâtre, ça va sûrement pas marcher parce que c'est un talent jaseur. Il raconte, ouais. Mais il n'a pas la fibre dramatique. Ouais. En fait, si on le compare par exemple, au théâtre de Flaubert, il soutient la comparaison.
Oui. Hein.
Il est à peine plus mauvais que celui de Flaubert. Il a tout fait. Hein. Il gagnait sa vie avec sa plume aussi, enfin en grande partie.
en dehors de ses fleurs, parce qu'il n'avait aucune fortune, il n'avait rien. Il y a un CES Alphonse Karr à Saint-Raphaël, il y a une rue Alphonse Karr à Nice, il y a une rue des Guêpes à Sainte-Adresse depuis 1845, il y a une rue Alphonse Karr à Étretat. À part Étretat, Nice et Paris, je ne crois pas qu'il y ait d'autres rues Alphonse Karr. 35 éditions de Sous les Tilleuls, de son vivant. Chacun a pris chez lui ce qui lui plaisait. Donc les uns disent que les Guêpes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Les autres disent que c'est vraiment un écrivain qui a fait une coupure dans le mode d'écriture donc, de la période romantique. D'autres sont plus attachés au personnage, à son côté publicitaire. D'ailleurs, Flaubert en parle dans Bouvard et Pécuchet. Et il dit que donc Bouvard et Pécuchet se mettent à lire Alphonse Karr. Et que d'abord, ça les amuse beaucoup, cette façon, au milieu du récit, de parler de ses pantoufles, de sa maîtresse et de son chien. Et qu'ensuite, ça leur paraît ridicule. Et c'est là que Flaubert ajoute, l'auteur détruit son œuvre en introduisant sa personne. Enfin, je cite de mémoire, c'est pas tout à fait ça, mais... Mais justement, l'intérêt d'Alphonse Karr, c'est qu'il est toujours là. Et que tout à coup, il apparaît en disant « Je regarde par ma fenêtre, je vois mes cerisiers en fleurs et ça m'intéresse beaucoup plus que ce que je vous écris. » Des choses comme ça, bon, bah, c'est une forme de littérature qui, à l'époque, était encore originale. Oh, bah, son style, il est catastrophique, malheureusement.
Dans les gaps, c'est souvent...
Il a un vocabulaire, oui, mais vous n'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai eu beaucoup de peine à le lire parce que ça se lit avec les yeux. Parce qu'il y a un tas d'assonances qui sont très gênantes. Il y a des S qui s'entremêlent. Il ne fait pas du tout attention à la scansion de sa phrase et à l'euphonie même de la phrase. Ça, il n'en a aucun souci. Il a envie de dire quelque chose, il le dit. Il y a certaines phrases, elles font 6 lignes, il y a 12 fois qui dedans ou 12 fois que. Et il s'en fiche, ça lui est totalement égal. Et quelquefois, il a des réussites qui lui viennent comme ça tout à coup. Il dit bien qu'il cause avec des amis. Donc, il entretient la conversation. Et bon, c'est vrai que quand on parle, on ne se préoccupe pas beaucoup de la rhétorique. Et...
Oui,